le patron te raconte que t'es adroit et gentil. Sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, petit gars.
Bienvenue à la si complainte du travail.
Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Alors, nous sommes à la prochaine partie de notre émission. Tout à l'heure, nous avons abordé ensemble certaines données sur un document que le Front a produit, qui est une plateforme de revendication visant l'amélioration des conditions de travail et de vie de des travailleurs et des travailleuses migrants. Tout de suite, avant la pause, on a dit qu'il y avait un climat de terreur qui existait. On a l'air d'être dramatique, là, mais nous, on le sait dans le contexte, comment ça peut être pénible pour ces personnes-là, et que c'était beaucoup à cause de la peur du rapatriement. J'aimerais ça qu'on revienne là-dessus, puis je sais que tu as d'autres éléments que tu voudrais nous dire aussi.
Bien,
on parlait tantôt la peur. Ouais. Ça veut dire je tombe malade, j'ai pas envie de le dire à mon employeur.
Ouais. Parce que la structure des programmes fait en sorte que les employeurs ont beaucoup de liberté sur le moment et le pourquoi ils décident que leur travailleur va retourner chez eux. Donc, c'est très possible qu'après un mois, deux mois, même si son contrat est de six mois, qu'il soit rapatrié. Et ces situations-là arrivent quand le travailleur va chialer. Si le travailleur se blesse, malheureusement, c'est très, 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 très difficile pour eux d'exercer leurs droits par rapport à la CSST. S'il arrive un accident puis qu'il devient moins productif,
C'est pas dans la logique. Il doit être productif et non pas contre-productif.
C'est ça. Donc, on le retourne chez eux.
Et tu l'as aussi dit. Tu l'as aussi mentionné tout à l'heure, les nombreuses heures supplémentaires font en sorte que ces personnes-là, souvent, s'ils ont besoin d'une information, ils travaillent bien au-delà des heures de bureau. Alors, c'est pas à 11 heures le soir qu'on peut s'informer, ni un samedi ou un dimanche parce qu'on n'est pas en congé, finalement, on travaille. Je sais qu'il s'était fait beaucoup de travail là-dessus pour essayer de retracer ces gens-là puis d'aller les rencontrer, mais il reste quand même que c'est difficile
C'est très difficile, d'où l'importance des centres d'appui au travail agricole. Puis aussi, un des inconvénients de tout ça, c'est qu'il n'y a aucune procédure d'appel. Si la personne est rapatriée, en fait, la décision se prend, puis le lendemain, ils sont dans un avion, ils sont repartis, on n'en parle plus.
Fait que ce qu'on comprend dans ça, Mélanie, c'est une méconnaissance des lois, un déni des droits, un non-respect des lois. Et ils sont vraiment pas armés, eux autres. Là. Ils sont pas protégés, pas représentés non plus.
Ils sont pas représentés. Bon, ils parlent pas la langue, on en a parlé tantôt. Comment se faire valoir son point de vue dans tout ça? Pour la plupart, la meilleure solution qu'ils ont trouvée, c'est finalement de se fermer, de pas chialer, de pas venir réclamer, par exemple, leur repos hebdomadaire. T'sais, c'est sûr qu'ils peuvent le reporter dans le secteur agricole, mais à un moment donné, on a tous besoin d'une journée de congé pour se reposer.
Oui, puis aussi que ce qu'on a constaté au fil des ans, c'est qu'anciennement, on disait les mois d'été, mais c'est plus vrai. Là, ils arrivent tôt, très tôt, pour préparer les plantes. Ils finissent tard pour fermer les terres, préparer les terres pour l'année. Fait que c'est plus des périodes de trois mois intensives. C'est souvent du 6, 8, 9 mois intensifs.
Parce qu'il arrive pour il y a beaucoup de cultivateurs ou en tout cas de cultures qu'on commence dans les serres. Donc, ils vont arriver pour le travail dans les serres fin de l'hiver. Puis, il y en a qui peuvent rester jusqu'au mois de novembre, décembre. Donc, ça perdure quand même assez longtemps dans le temps.
Est-ce qu'il y a quand même des instances qui ont réagi à ça? Parce que je présume...
Bien, notamment la Commission des normes du travail. On l'a vu, ils sont venus nous présenter les résultats de leur enquête dans le cadre d'une rencontre de la coalition.
Oui, moi, je le sais, mais pas les auditeurs auditrices.
Mais ils ont fait des enquêtes préventives. La Commission des normes du travail, qui est l'organisme qui est chargé de faire respecter la loi sur les normes, a décidé de prendre son mandat d'enquête et d'aller faire des enquêtes préventives. Donc, ils n'ont remis aucun constat d'infraction, mais sont allés faire enquête et ils ont rencontré...
On espère que c'était des 82... enquêtes qui n'étaient pas planifiées, là, que ça ne laissait pas le temps.
Oui, je pense qu'ils étaient un peu planifiés. Ben, ils ont reçu un avis.
S'ils ont un avis que quelqu'un va débarquer pour rencontrer les conditions d'hébergement lundi, ça se pourrait-tu que samedi puis dimanche...
Mais la Commission des normes du travail, c'est pas penché sur, par exemple, les conditions de salubrité des bâtiments, parce que ça ne relève pas de leur fonction à eux. Donc, c'est un autre service d'inspection protection qui devrait passer, soit le service municipal, soit les gens responsables du programme, soit le recruteur qui est la Fondation des entreprises en recrutement de la main-d'œuvre migrante étrangère. Ferme, oui. Donc, il ne se préoccupait pas de ça. Il allait voir si le respect des normes du travail. Ils ont vérifié le temps supplémentaire, ben, pas le temps supplémentaire, mais le nombre d'heures qui étaient travaillées. Ils ont vérifié aussi, parce que les travailleurs, tantôt on parlait qu'il y avait deux programmes qui s'occupaient des travailleurs agricoles. Une des distinctions, c'est que ceux qui viennent sous le programme des travailleurs agricoles saisonniers n'ont pas à payer pour l'hébergement. Donc, ils n'ont pas à payer pour la chambre qu'ils vont avoir, tandis que ceux qui viennent sous le programme des PEU spécialisés doivent payer un certain montant par semaine à la personne qui l'héberge.
C'est drôle, puis tu me rappelles que tu as dit tantôt que celui-là, là, il est en pleine expansion. Oui. Fait que ça veut dire parce
c'est pas
que...
pour rien.
Non, parce que là, si je vais le faire à l'avocat du diable, puis j'aime ça, là, si tu as 100 employés qui viennent, puis que tu charges des frais, puis que tu les fais dormir dans une grange ou une affaire dans le genre.
Ben, ils ne font pas dormir dans des granges, mais disons qu'ils font dormir dans des bâtiments
des dortoirs.
Ou en tout cas, avec beaucoup de proximité.
Oui. Ben, moi, je suis déjà allée aux pommes, je sais quoi, des dortoirs. Là. C'est assez primitif
c'est
comme condition.
C'est comme des camps de
bûcherons. Oui, c'est ça. Fait que ça devient payant, ça devient une source
revenir,
de revenus.
Oui, puis pour revenir à la question des programmes et puis du fait qu'ils payent l'hébergement, les peu spécialisés, par contre, pour les frais de transport, le programme des travailleurs agricoles saisonniers, c'est les travailleurs qui doivent payer le billet d'avion, tandis que pour les peu spécialisés, c'est l'entreprise qui les recrute qui paie les billets d'avion aller-retour. Donc, il y a une petite distinction là, mais c'est sûr que si on fait le calcul, le fait d'héberger ces personnes-là et de leur charger un montant qui était contraire à la loi, parce que là, le problème, c'était est-ce qu'ils sont dans les faits tenus de résider chez l'employeur? Parce que là, on disait du côté employeur que non, parce que le programme leur laisse le choix du lieu de résidence. Sauf que le fait de travailler dans des fermes agricoles, dans des villages reculés...
Quand est-ce qu'on veut qu'il y ait
le
temps de chercher un loyer
ben,
de toute façon?
Puis il faut qu'ils soient proches parce qu'au nombre d'heures de travail qu'ils font puis à l'heure qu'ils commencent, il n'y a pas de transport. Donc, ils se retrouvaient comme par défaut à rester chez les employeurs. Fait que là, la commission est quand même venue émettre des avis juridiques là-dessus parce qu'ils chargeaient 45 $ par semaine par travailleur. Souvent, c'était le montant qui était chargé par les entreprises, tandis que la loi stipule que ça doit être 20 $ pour la chambre. Ça peut monter jusqu'à 45 avec les frais de repas, mais là, ici, c'est les travailleurs qui cuisinent eux-mêmes leur nourriture. Donc, la nourriture n'est pas fournie par l'employeur. Donc, le montant était trop élevé.
Ah, tu nous parles d'un
cas
d'abus.
Cette année, ça s'est supposément régularisé et il y a eu des plaintes de travailleurs qui ont été faites pour réclamer les sommes payées en trop pour l'année antérieure. Et par écho, j'ai su que les plaintes avaient été acceptées.
Je sais aussi, pour en avoir vu passer, que la Commission des droits de la jeunesse et des droits de la personne et de la jeunesse avait aussi parlé de discrimination dans le cadre des programmes des aides familiales. Puis, si je me souviens bien, c'était une triple discrimination.
Oui, la Commission des droits de la personne a été mandatée. En fait, il y avait un comité qui s'occupait de... un comité de travail là, formé d'organisations qui se préoccupaient de la question des aides familiales résidentes qui n'étaient pas couvertes par la CSST. Donc, en tant que travailleuse qui avait un employeur, qui était une personne, elles sont exclues de la loi sur la santé et sécurité au travail. Donc, elles sont exclues, elles n'ont pas le droit à réclamer de la CSST en cas d'accident. Alors, ça, c'est un problème majeur. Et il y a des gens qui ont cogné à la porte de la commission pour demander, entre autres, un avis juridique sur cette question-là, à savoir est-ce que c'est une discrimination? Et la commission a répondu que oui, avec discrimination. On parle conditions sociales.
Si je me trouve bien, on parlait d'une triple discrimination sur le sexe, parce que c'est majoritairement des femmes, sur la condition sociale, parce qu'elles sont souvent à faible revenu, puis elles occupent un emploi dévalorisé par notre société, puis l'origine ethnique ou la race, parce qu'on a dit, bon, ces femmes-là viennent des Philippines, maintenant d'Afrique du Nord ou autre.
De l'étranger, là, d'un pays du
Donc, c'est un peu réjouissant de voir qu'il y a quand même des organismes qui se préoccupent de ça.
Oui.
La réflexion s'est amorcée. On le sait, c'est pas pour rien qu'on a produit une plateforme.
Puis, comme on regarde quand même le cas des aides familiales puis la couverture par la CSST, c'est toujours pas réglé. Il y a toujours un projet de loi qui dort dans un tiroir. Et puis, ils ont voulu mettre quelque chose en vigueur qui, là, venait restreindre elles devaient travailler minimalement 24 heures par semaine pour être couvertes. Puis là, la Commission des droits de la personne a encore sorti pour dire, bien, c'est encore discriminatoire, tu sais. Donc, ils sont retournés à la planche pour pondre un nouveau projet de loi, mais... ça fait, ça commence à faire quelques années.
Il y a quand même eu des améliorations, on l'a vu, nous, on les voit passer, là, nous autres comme membres du Front, puis on en parle régulièrement dans nos rencontres, on sait qu'il y a quand même eu des batailles qui se sont menées, là, je pense entre autres à l'Association des aides familiales, qui est allée à l'Organisation internationale du travail, puis qui a réussi, avec ses pressions, à procéder à l'adoption d'une convention internationale. C'est quand même un pas de géant, là. C'est une belle bataille et un pas de géant. Mais pour revenir à notre plateforme, puis on n'aura pas le temps de présenter les 18 recommandations, on vous le dit, là.
Je pense qu'il faut y aller un peu par thème.
Oui,
je
on va y aller par thème. Si les gens veulent aller, bien...
l'essentiel des éléments.
Oui. J'aimerais mieux qu'on y aille par c'est quoi les instances. Je sais que tu as fait des beaux tableaux, Mélanie.
Oui,
là,
mais là, puis, malheureusement, personne ne peut les voir. Mais c'est
non,
pas
mais
je
nous,
vous
tu
en
vas pouvoir te baser
même.
À partir de tes tableaux.
C'est parce qu'il y a certaines revendications qui sont très précises et puis qui pourraient être longues à faire la lecture. Donc, je pense que c'est préférable d'expliquer un peu dans quel contexte on les insère, puis de comprendre c'est quoi les grands principes. Puis à partir de là, je pense que ça va de soi qu'on voit qu'est-ce que c'est que les revendications quand même. Fait qu'on divise ça un peu en trois niveaux d'intervention pour réussir à améliorer les droits de ces personnes-là puis leurs conditions de travail. On parle d'abord du respect des droits fondamentaux. Donc, principe de non-discrimination basé sur leur statut. On pense, entre autres, parce que c'est un sujet dans lequel on peut se perdre facilement. Mais il y a toute la question aussi de la validité du permis de travail versus un permis de travail qui n'est pas valide. Donc, moi, je suis une aide familiale, je travaille chez Manon Brunel. Manon Brunel me congédie, mon permis de travail n'est plus valide. Donc, est-ce que je peux contester mon congédiement? Il y a des zones grises. Il y a des zones grises parce qu'il y a des lois d'ordre public, puis il y a des lois, en tout cas. Ça reste compliqué dans certains cas quand le permis de travail est échu pour une raison X ou Y, qui peut être un congédiement. On doit retourner dans notre pays parce qu'on n'a plus le droit d'être ici, entre autres. Donc, c'est sûr que par rapport à tout ça, on a beaucoup de choses qui tournent autour de ben, que les personnes puissent rester au Québec en cas de, justement...
Entre les employeurs. C'est beaucoup dans le travail domestique.
Pour un congédiement, pour leur laisser la chance d'exercer leurs droits. Ensuite, on parle d'une égalité de travail entre travailleurs migrants et citoyens. Donc, il y a quand même des distinctions qui sont faites entre les travailleurs étrangers puis les travailleurs ici. L'égalité de traitement va aussi beaucoup... c'est beaucoup aussi... au niveau de l'application des lois du travail. Donc, malgré qu'ils soient, les employeurs soient soumis aux lois, souvent, l'application est tellement difficile que la personne ne peut pas exercer ses droits.
Ça doit aussi être compliqué, Mélanie, si quelqu'un... Exemple, qu'une personne dépose une plainte, mais c'est au terme de son contrat, elle est retournée au Mexique ou aux Antilles, la plainte, là, comme telle...
La gestion de la plainte est difficile, étant donné
que la personne
n'est
plus
difficile.
Ici.
C'est très difficile. Ce qui est rassurant, c'est qu'entre autres, la Commission des normes du travail se sont préoccupés de cette question-là et puis ils ont exercé des recours donc à différentes instances, donc ils n'ont pas arrêté à la première instance qui est la Commission des relations de travail. Ils ont fait aussi des injonctions interlocutoires, je pense, je ne sais pas exactement si c'est le terme, mais pour qu'entre autres on puisse entendre le témoignage de la personne qui est retournée au Guatemala par vidéoconférence. Donc il y a eu un premier niveau où ça a été refusé, ça a été porté à un second degré là, et puis ça a été finalement accepté. Mais là, tout ça prend énormément de temps, énormément d'énergie, et c'est très long. Les délais juridiques sont très longs.
Et l'autre, puis la peur revient encore, parce que tout à l'heure, on a parlé de la peur du rapatriement, mais il y a aussi la peur de ne pas être rappelé. Si tu as déposé une plainte, parce que surtout dans le cas des travailleurs agricoles, souvent ces gens-là reviennent d'année en année. Il y en a que ça fait 20 ans qu'ils viennent ici. Là. C'est certain que ça aussi, ça devient complexe pour eux autres.
Puis au travers des droits fondamentaux, on pense entre autres aussi à la possibilité de pouvoir peut-être... s'inscrire dans le processus d'immigration régulier, tu sais, tout en étant ici.
Bien, comme je te dis, les gens, que ça fait 20 ans, ils ont quand même créé des contacts. Il y en a qui sont ici 9 mois, ils participent à la vie quand ils ont la chance d'avoir des congés. Ils participent à la vie du village, ils sont connus. Il y en a peut-être qui apprécieraient de venir rester ici avec leur famille.
Oui, puis qui probablement continueraient à travailler dans le secteur agricole ou dans le secteur pour lequel ils sont venus ici. Les besoins de main-d'œuvre sont là. Donc, ils ont comme un emploi qui les attend. On sait qu'il y a des gens hyper spécialisés qui viennent, qui ne trouvent pas ou qui se retrouvent chauffeurs de taxi, là, ce qui crée beaucoup de frustration aussi, mais c'est ceux qu'on décide, c'est ceux qu'on choisit. Mais c'est pas toujours, il n'y a pas toujours de l'emploi pour tout le monde. Puis quand on regarde au niveau des revendications, à ce niveau-là, il y a ben, que le gouvernement du Canada signe et ratifie les conventions internationales. Pense à la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et les membres de leur famille.
Excuse. Parce que nous autres, on ne l'a pas ratifié, cette
convention-là. Non, il n'y a aucun pays du Nord qui a ratifié cette convention-là. Il y a 40 pays qui l'ont ratifiée, puis ils proviennent tous de pays du Sud qui si vous voulez...
utilisent moins cette main-d'œuvre.
J'hésite à dire exportent leur main-d'œuvre, mais d'où proviennent les pays, les personnes qui viennent travailler temporairement ici?
Ça reste, Mélanie, quand même, pour le pays qui envoie sa main-d'œuvre, une source d'économie pour le pays. Là, on
comprend
bien.
C'est pas une source d'économie, c'est une source de revenus. C'est une source de revenus.
Je veux dire que ça fait tourner leur économie.
Oui, parce que ces gens-là, c'est vrai que quand ils retournent chez eux, ce qu'ils ont gagné ici, ça permet de faire des petits investissements dans le pays d'origine. C'est la monnaie est importante aussi. Ils sont payés en dollars canadiens. Souvent, ils ont des monnaies qui sont fluctuantes beaucoup. Donc, c'est comme le dollar est comme une monnaie sûre. Donc, c'est de la monnaie étrangère qui rentre dans le pays, ce qui est apprécié des gouvernements étrangers. Il y a des restrictions pour certains programmes, là, où est-ce qu'ils vont être restreints à 4 ans pour les peu spécialisés. Ils vont pouvoir venir pendant 4 ans. Puis, suite à ça, il va y avoir une période pendant laquelle ils ne pourront pas venir de plusieurs années. Mais c'est pour permettre un certain roulement dans la main-d'œuvre. Puis, en tout cas, certains disent que les pays d'origine sont d'accord avec ce type d'entente-là ou de caractéristiques parce que ça permet que les gens vont économiser, donc vont investir après dans le pays plutôt que juste dépenser. En tout cas, je ne sais pas. Ça reste à voir, c'est nouveau. On demande aussi que les programmes respectent la Charte québécoise des droits et libertés. Puis ça, la commission s'est déjà penchée sur les programmes, parce que c'est des programmes fédéraux. Ils viennent par l'entremise de programmes fédéraux, mais comme ils sont assujettis aux lois québécoises du travail, qui est de compétences provinciales, ils sont aussi assujettis à la Charte. Donc,
ça complexifie, tu viens de dire. Ils viennent dans le cadre d'un programme au fédéral, mais ils viennent travailler dans une province, puis c'est les lois de la province qui s'appliquent.
Puis là, il y a certaines choses qu'on n'a pas parlé, parce qu'il y a tellement d'affaires à dire, mais je trouve que c'est... Tout est quasiment plus épouvantable d'une chose à l'autre, là, mais il y a beaucoup de rétention de documents. Donc, les employeurs vont conserver les documents des travailleurs.
Confisquer carrément les documents.
Ils vont les garder, donc, en sécurité, là, je mets des guillemets, pour pas que les travailleurs perdent leurs documents. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de pratiques.
Mais c'est très paternaliste.
Énormément. Donc, c'est sûr qu'on demande que le ministère de l'Immigration interdise que
les
la rétention d'identité, c'est ça, puisse se faire.
Ça l'empêche aussi d'aller déposer une plainte parce que tu n'as pas de carte.
T'as pas ton passeport. Puis ça facilite aussi le rapatriement en cas de besoin. Tu sais, l'employeur a tous les papiers sous la main. Donc, il y a ça. Fait que ça fait un peu le tour. C'est sûr qu'on rentre dans le respect des droits fondamentaux, les inspections de logement, là, qu'on respecte les conditions de vie privée aussi des personnes.
Tu en as parlé vaguement, mais c'est parce que je pense que les gens ne le savent peut-être pas nécessairement. Il y a eu quand même beaucoup de documentaires là-dessus ou autres.
Oui,
les conditions d'hébergement sont atroces.
Oui.
Il y a eu beaucoup de cas. Quand on disait tantôt la perquisition des documents, c'est qu'effectivement, il y a eu des plaintes. Et au niveau des travailleuses, aide familiale, il y a eu des cas d'abus, des cas de violence, des cas où est-ce que les personnes étaient cachées, ne pouvaient pas voir personne, isolées complètement. Là. Ça, pour ceux qui nous écoutent, ça paraît peut-être anodin ce qu'on dit, mais c'est des cas réels, là, des cas vécus.
Oui, tout à fait.
Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une pensée pour ces gens-là et non pas parce qu'on entend aussi fortement les préjugés, hein?
Oui, beaucoup. Oui, il y a beaucoup de préjugés.
On le sait quand on a commencé à travailler.
Quand on n'est pas en contact avec ces gens-là puis qu'on ne voit pas dans quelles conditions ils travaillent.
Et qu'on se souvient quand on a commencé à penser à la plateforme, parce qu'on s'est dit qu'il y a un besoin de sensibiliser la population, parce que la population qui méconnaît la situation est portée à porter beaucoup de jugements, en disant « des voleurs de job, ils viennent prendre nos jobs, Mais en fait, ce n'est pas vraiment la réalité, puisque ces jobs-là ne trouvent pas preneur dans bien des cas.
Est-ce qu'on pourrait rappeler le site Internet pour que les gens puissent avoir accès à la plateforme de revendication?
Bien, probablement sur votre site Internet, sinon je pourrais vous l'envoyer.
La plateforme de revendication, ma chère Mélanie, comme on l'a reçue il n'y a pas tellement longtemps puis qu'on n'a pas fait la mise à jour, j'aime autant que tu dises sur votre site
à vous. Sur le site d'Au bas de l'échelle, en tout cas, ça, je suis certaine, aubasdelechelle.ca en un mot, www. Et aussi sur le site porte du Centre de travailleurs immigrants et de l'Association des aides familiales, je crois. Et peut-être du canot en Mauricie.
Oui, bien, nous autres,
donc, on
va sûrement
la retrouve quand même. Oui. C'est possible à diffuser. Et là, si vous voulez, je passerai au deuxième niveau d'intervention.
Oui, vas-y.
Parce qu'il nous en reste quand même deux, puis plus qu'on s'enfonce, plus qu'il y a une matière autour. Donc, sans aborder chacune des revendications spécifiquement, notre deuxième niveau d'intervention, ce serait le niveau de la législation et des politiques, donc les lois et les politiques gouvernementales. Donc, on parle de revoir les politiques et la loi sur l'immigration pour permettre, entre autres, d'accorder des permis de travail moins restrictifs.
Ce que tu expliquais tout à l'heure. Oui.
Et plutôt que ce soit seulement qu'un employeur, que les gens puissent avoir accès soit au secteur d'activité au complet, soit avoir un permis complètement ouvert pour tous les secteurs d'activité.
Ça l'éviterait qu'il soit lié à juste cet employeur-là.
Oui, c'est ça. Ou, par exemple, la personne vient travailler dans le secteur agricole, qu'elle puisse changer d'employeur, donc qu'elle ait un permis semi-ouvert, donc pour tout ce secteur d'activité. Puis c'est sûr qu'on demande aussi une facilité d'accès au système d'immigration, donc que les gens puissent peut-être poser leur demande.
Ce qu'on disait tantôt, il y en a peut-être qui voudraient faire des demandes éventuellement, bien faciliter qu'ils puissent.
Oui. Et ces lois-là, c'est principalement la loi sur l'immigration, la protection des réfugiés et le règlement là, qui s'y rattache. Donc, il y en a un, c'est établir les principes, puis l'autre, c'est plus les mécanismes là, dans le règlement. Ensuite, on parle d'élaborer des politiques pour garantir des conditions de travail décentes. On parle d'abolir les exclusions qu'on retrouve dans les lois du travail. Il n'y en a plus énormément.
Mais il en
reste. Bon, la question des aides familiales, puis la santé et sécurité au travail en est une. Les heures supplémentaires, c'est la semaine normale de travail. Tu sais, que
non, les travailleurs agricoles n'ont pas les heures supplémentaires.
Oui, c'est ça. Donc, l'exclusion est au niveau de la semaine normale de travail, là, donc ils sont exclus de la rémunération pour le temps supplémentaire. Alors, c'est une exclusion qui pourrait peut-être être abolie, ce qui éviterait bien des abus parce que payer 20 heures de temps supplémentaire à temps et demi, là, ça peut devenir…
Parce que, tu sais, au-delà de l'aspect économique, moi, j'ai toujours en tête et je me dis la même chose pour quelques secteurs que ce soit, tu ne peux plus être productif, puis c'est dangereux pour ta santé, ta sécurité quand tu fais des heures, comme tu disais tout à l'heure, entre 60 et 70
ouais,
heures et 80 heures.
Il y a un certain moment donné où c'est impossible que la personne ne soit pas épuisée. Ouais.
Alors, il y a cet aspect-là aussi qui va au-delà du salaire qui serait bonifié. C'est aussi ta santé et ta sécurité.
Oui. Il reste des petites exclusions par rapport aux cueilleurs de fraises et de framboises. Bon, on demande peut-être que le salaire minimum s'applique, mais
ça va être aboli, ça, d'ici 2014.
Peut-être.
Ça va être annoncé.
Oui, des fois, ils reportent.
Oui.
Mais ça pourrait. Puis on parle aussi de maintenir une protection en cas de perte de statut. Donc, moi, je perds mon statut parce que mon employeur me congédie et que je conserve quand même une certaine protection. Et puis, c'est ça. Puis on parle des lois sur les normes du travail, la CSST, la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, puis le code du travail. Parce que là, il y a tout aussi la question de l'accès à la syndicalisation.
Ben oui!
Là, c'est tout un... Je pense qu'on pourrait en parler aussi.
Non, mais juste dire aux auditrices qu'il y a quand même eu des grands débat là-dessus parce que le TUAC, que tu as déjà nommé au préalable, a fait une grosse campagne visant la syndicalisation, a fait des approches et s'est tenu beaucoup dans un secteur Saint-Rémy, entre autres, à rencontrer des travailleurs agricoles saisonniers pour tenter une percée de syndicalisation dans ce milieu-là, puis ça n'a pas eu lieu. Donc, la syndicalisation reste encore préoccupante.
Est très importante. Puis là, ça progresse. Là, il y a un dossier qui est en Cour suprême. Le frein à la syndicalisation actuellement, c'est que pour se syndiquer, on doit travailler dans une ferme qui compte plus de 3 employés à l'année longue, donc sur les 12 mois.
Et non pas 9 mois sans employés.
Oui, souvent, c'est des fermes familiales, donc il n'y a pas 3 employés pendant 12 mois.
De toute façon, l'employeur qui sait que c'est un frein, il va s'arranger pour en avoir 2.
Je ne sais pas, 150 travailleurs l'été, tu sais, ou sur 8 mois dans l'année, mais bon. Ensuite, on parle de prévoir une politique d'accueil. Donc, informer les travailleurs de leurs droits dans
leur
langue, puis mettre à leur disposition des ressources de soutien. Ça inclut de financer des groupes d'appui pour qu'on puisse soutenir ces travailleurs-là, puis être au moins une référence ou une
ressource. Parce que ces groupes-là existent de toute façon. T'en as nommé plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont là pour améliorer leurs conditions, mais ils n'ont malheureusement pas de financement.
Ils ont très, très peu de financement.
Puis ce serait les porte-parole privilégiés à ce moment-là.
Oui. Bon, je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Il reste un dernier niveau d'intervention qui est, un coup qu'on a changé les lois, si on est capable, de changer les lois, il reste aussi des efforts à mettre dans les mécanismes d'application de ces lois-là. Donc, dans le traitement concret, soit des plaintes, soit des dossiers. Donc, c'est de voir les mécanismes juridiques pour assurer la meilleure application des lois du travail. On parle de traitement rapide et prioritaire des plaintes déposées par les travailleurs temporaires. Donc, moi, je suis travailleur guatémaltais, que je me fais congédier si je porte plainte, bien que peut-être...
Que je sois entendu rapidement.
Tout de suite, qu'au moins que ma plainte soit saisie tout de suite par la commission des normes, puis qu'on puisse là, procéder rapidement. Ensuite, autoriser la personne à rester au Québec durant les procédures, ce qui viendrait faciliter l'exercice des droits, bien sûr. Puis, effectuer des inspections chez les employeurs pour vérifier l'application des lois.
Des inspections non planifiées, si possible.
Non planifiées, si possible. Bon, là, on a vu que la commission en a fait des un peu planifiées. C'est un début, mais ce serait important que la CSST puisse faire des inspections, puis qu'il y ait quelque chose aussi pour inspecter les conditions d'hébergement. Fait que c'est un peu les niveaux là où est-ce qu'on nos
Écoute,
revendications.
Je pense que l'exercice d'aujourd'hui, on l'avait dit, c'était qu'on n'était pas capable de présenter 18 recommandations.
Non, non,
c'était
non.
plutôt d'expliquer le contexte, que les gens comprennent la problématique, sachent qu'il existe des choses qu'on veut mettre de l'avant pour améliorer leurs conditions, sachent un peu qu'est-ce que c'est leurs conditions actuelles, comprennent que ça l'interpelle deux gouvernements, mais que ça l'interpelle aussi d'autres instances.
Oui.
Donc, le lobbying politique doit se faire à plusieurs niveaux, pas juste à un niveau. Mélanie, tu nous as fait la présentation de la plateforme. J'aimerais qu'on revienne parce que je sais que la plateforme, c'est un des éléments au Front de défense, mais il y a aussi d'autres activités là, qui s'en viennent, dont la fameuse journée. En fait, ça souligne la journée internationale
des travailleurs migrants. C'est la journée internationale des travailleurs migrants. Et puis, c'est une journée qui est décrétée par l'ONU. Et puis, bon... À chaque année, il y a des choses qui se font dans le cadre de cette journée-là. Puis l'année dernière, c'est un peu nous autres qui a pris le leadership, si on veut, d'organiser une journée où est-ce qu'on a fait une conférence, puis pas une conférence, mais
une commission publique.
Commission publique,
avec des experts.
Avec des experts, des témoins. On a eu des travailleuses, des travailleurs qui sont venus parler de leurs conditions. Et puis, donc, cette année, ce qu'on vise, c'est plutôt d'aller voir aussi le contexte mondial qui fait qu'on reçoit de plus en plus de main-d'œuvre. Donc, essayer de comprendre un peu au niveau international dans quoi ça se situe. Faire un suivi aussi des changements qu'il y a eu aux différents programmes parce qu'il y en a eu. Puis d'essayer de voir aussi qu'est-ce qui se passe dans les autres provinces. Parce qu'il y a des provinces qui ont modifié certaines lois. Donc, voir qu'est-ce qui s'est passé puis qu'est-ce que ça a eu comme avantage. Puis de regarder aussi les acteurs qui s'occupent du recrutement. Parce qu'il y a des agences de placement internationales,
entre autres. Oui, on sait que maintenant,
donc le recrutement reste
problématique.
Douteux dans beaucoup de cas. Les aides familiales en sont un exemple.
Écoute, Mélanie, c'est encore intéressant, mais ma collègue à la régie me fait des grands signes et elle me semble me dire que j'ai une minute, incluant mon mot de la fin.
45 secondes.
Et Seigneur, alors à ce moment-là, ben, je te remercie beaucoup, Mélanie, d'être venue en région pour nous faire cette belle présentation-là. Je vous rappelle que c'était Mélanie Gauvin du Front de défense des non-syndiqués, porte-parole dans le dossier du travail migrant. Je remercie ma collègue Sandy qui était à la régie, qui fait toujours une bien bonne job. On va vous retrouver dans deux semaines. Vous avez peut-être remarquez que maintenant, on alterne notre émission, notre temps d'antenne avec la CEF. Une semaine, c'est Illusion. L'autre semaine, c'est la CEF Estrie avec son émission Tant qu'à consommer. Alors, nous, on se retrouve dans deux semaines. Si vous avez besoin de nous parler, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez nous joindre par téléphone au 819-569-9993 ou par courriel illusion@commercialaideinternet.org ou sur notre site Internet www.illusionemploi.org. Bye-bye!